Il avait le droit d'arrêter de s'accrocher pour nous. Il pouvait arrêter les souffrances de son corps. Je lui ai également dit combien je l'aimais et qu'il pouvait compter sur moi pour élever nos enfants, qu'il était l'homme de ma vie, que ce serait difficile sans lui, mais que je m'y efforcerais. Je lui ai dit qu'il pouvait partir en paix. J'ai perdu la notion du temps ensuite. La respiration de Guy change imperceptiblement. Cela attire l'attention de Marie-Claire, dont le regard, perdu un instant dans le vide, se repose sur le visage de son mari. Elle est attentive à chaque micro-évolution. Ni le visage, ni aucun des membres de Guy ne bouge plus. Il repose dans une immobilité totale, et seul un mince filet d'air témoigne que la vie l'habite encore. Sa main, levée dans celle de Marie-Claire, est brûlante et glacée l'instant d'après. Les minutes passent, dont Marie-Claire a perdu le souvenir. L'espace est devenu différent, comme l'écoulement du temps. Et soudain, j'ai senti une sorte de décharge électrique, de chaleur émise par la main de Guy, qui remontait le long de mon bras, irradiant jusqu'au coude. J'ai lâché sa main de surprise, de peur aussi, tant c'était inattendu. Elle hésite un bref instant. Douleur? Peur? Puis reprend finalement la main de son époux dans la sienne. La respiration de Guy s'amenuise encore, ralentit. Il expire. Marie-Claire tient toujours sa main. Elle lui parle, mais elle sait. Elle se résout à appeler les infirmières qui confirment que son mari vient de s'éteindre. Je suis certaine que la décharge venait de son corps et non du mien. C'est difficile à expliquer. On veut tout rationaliser, et puis l'entourage dit comprendre, juste pour vous faire plaisir, mais sans y croire. Alors on finit par garder cela en soi. Personne n'a jamais réussi à me convaincre que j'aurais pu l'imaginer. Sauriez-vous me décrire cette sensation? Je pourrais comparer ça à... Vous savez, le fil électrique des clôtures à vaches.
Ah oui, de cette intensité.
Disons que c'était fort lorsque je l'ai reçu, mais la sensation n'a pas duré dans mon bras, contrairement à une décharge de fil électrique.
Ça a été douloureux?
J'ai l'impression d'avoir eu mal. Mais en même temps, je me demande si ce n'est pas plutôt la surprise qui m'a fait lâcher brutalement sa main. La soudaineté de la décharge.
Êtes-vous certaine que vous ne vous étiez pas endormie?
Non, je ne dormais pas. Des questions, je m'en suis posé beaucoup, vous savez, mais non, je ne dormais pas. Je ne l'ai pas imaginé non plus.
Que s'est-il passé?
À quoi attribuer cette décharge électrique qu'a ressentie Marie-Claire quelques secondes avant que Guy ne s'éteigne définitivement? Ce phénomène accompagne-t-il la fin de vie? Les médiums évoquent des changements énergétiques dans la personne en train de se détacher de son corps au moment de son départ. Des changements de même nature se manifestent aussi dans la pièce où se produit le décès. J'en ai moi-même fait l'expérience lors des derniers instants de mon père. En effet, j'ai senti distinctement quelque chose changer dans l'atmosphère de la chambre d'hôpital qu'il occupait depuis 15 jours. Au moment où il vivait ses derniers instants. Une plus grande densité de l'air dans la pièce. Puis il y a eu cette sorte d'énergie qui semblait arriver par vagues et me secouait littéralement. Oui, faute d'autres termes, énergie me paraît être le mot le plus adapté pour décrire le phénomène subtil que je percevais. Une onde, une force. Le moment précis de la mort est-il marqué par ce mouvement d'énergie, au point qu'il puisse être capté par un témoin? Cette décharge a-t-elle à voir avec le fait que quelque chose, esprit, âme, conscience, est précisément à cet instant en train de quitter le corps physique? Est-ce la manifestation tangible de l'ouverture d'une espèce de porte énergétique entre deux mondes? La preuve que la frontière d'ordinaire étanche entre deux dimensions devient poreuse, voire disparaît, afin que passent les âmes d'un monde à un autre, celles du défunt qui part, celles de ses proches déjà décédés qui viennent le chercher. Pour l'avoir vécu, j'ai aujourd'hui l'intime conviction que c'est le cas.
C'est une intuition du cœur.
Car distinguer dans ce moment si intense ce qui relève d'une manifestation inconsciente de nos propres émotions de ce qui a trait à une réalité spirituelle n'est pas qu'un exercice de raison. Un observateur extérieur n'y verra sans doute qu'une expérience subjective et, dans l'immense majorité des cas, conclura à une origine psychologique.
« C'est dans ta tête, tu étais secoué,
etc. » En revanche, pour celui qui fait l'expérience d'un tel moment, comme Marie-Claire, semble-t-il, ou moi avec mon père, nous savons qu'il s'agit de quelque chose d'important. Cela n'empêche pas les questions, le doute. Jusqu'à quel point cela n'a-t-il rien à voir avec notre imagination? Mais en même temps, on sait que ce que l'on vient de vivre est lié à cette dimension spirituelle. En fait, notre esprit est en proie à une étrange lutte intérieure, un combat entre deux facettes de nous-mêmes. D'un côté, notre part intuitive qui sait que ce qui vient de se produire est réel, et de l'autre, notre part mentale qui aimerait bien avoir une explication tangible du phénomène. Pour en avoir le cœur net, cette part mentale va tenter de trouver auprès de tierces personnes, amis, psy, conjoints, etc., de quoi étayer cette intuition. Mais malheureusement, cette démarche débouche en général sur le résultat exactement inverse. Nos amis nous écoutent, mais avec ce petit air de sous-entendre que l'on a rêvé. Notre psy veut nous ramener à la raison. Nos proches s'inquiètent que l'on se mette à croire à des choses irrationnelles, et au final, leurs remarques nous font douter de notre perception. Et l'on en vient à se dire que oui, finalement, ça devait être notre imagination. Pourtant, aucun n'a vraiment écouté ce que l'on disait. Ils n'ont fait que projeter sur nous leur vision du monde, leur certitude, leur croyance. C'est ce que j'ai vécu pendant 10 ans, jusqu'à ce que la solidité rationnelle de mes enquêtes finissent par convaincre ma part mentale qu'elle pouvait accepter de façon cartésienne la réalité de notre dimension spirituelle. La réalité de ces contacts, de ces signes qu'inlassablement les défunts essaient de faire à leurs proches pour leur transmettre un message. 10 ans. 10 ans pour enfin comprendre que notre fragilité dans ces instants si particuliers où nous sommes confrontés à la mort peut nous rendre crédules, mais nous permet aussi de voir nos barrières mentales sauter et notre rigidité intellectuelle se fissurer. Alors, les portes de nos perceptions s'ouvrent, précisément parce que nos failles sont à ce moment plus grandes. Précisément, lorsque nous sommes fragiles, il nous est plus naturel d'être perméables aux réalités invisibles qui nous entourent, comme le dit Christophe Fauré lorsqu'il évoque ces moments où notre « moi » est moins en vigilance et plus détendu. Nous percevons alors des fragments de la métamorphose de la personne que l'on aime, la métamorphose d'un vivant de chair en un vivant immatériel. Nous percevons ces signes, ces sensations, ces rêves qui sont autant de portes ouvertes sur l'au-delà.
Soyez indulgents avec vous-même. Acceptez vos doutes. Ils sont importants et vous protègent. Mais ne les laissez pas vous enfermer.
Servez-vous de vos questionnements pour confronter ce que vous pensiez connaître. Lisez, documentez-vous, et ne laissez personne vous dicter ces certitudes. Utilisez la puissance de l'énergie de votre douleur pour alimenter le moteur de votre exploration. Après le décès de Guy, Marie-Claire vit plusieurs expériences qui la troublent et éveillent son attention. D'abord, des signes, dont elle se demande si ce sont vraiment des signes. Comme ce papillon, qui survole tout le monde dans l'église le jour des obsèques. Ou un autre, qui vient la voir et apparaît aussi chez des amis. Puis des sensations plus tangibles dès le surlendemain, alors qu'elle se trouve dans leur chambre, tard le soir, couchée sur le lit, en train de regarder la télé. « Ça m'évitait de penser, » dit-elle. Et qu'elle ressent une chaleur intense, comme un voile la recouvrant des pieds à la tête, et qui rappelle ce que décrivait aussi Stéphanie au début de ce livre. Dans les semaines qui suivent, il arrive à Marie-Claire d'avoir des picotements sur le visage, des petits fourmillements, parfois la sensation d'une caresse. Cela peut être intense et à d'autres moments très léger. Il y a ces impressions que quelqu'un se trouve dans la maison, une présence, des bruits de pas. Combien de fois s'est-elle levée la nuit pour vérifier ? Même s'il lui arrive de se demander si ce n'est pas la fatigue, de nombreuses petites choses au quotidien l'interpellent. Marie-Claire a bien conscience que lorsqu'on cherche des signes, on peut en voir partout. Aussi fait-elle preuve d'un fort esprit critique qui l'incite à minimiser l'importance de ces événements. Pourtant, à certains moments, le doute est sérieusement ébranlé, comme cette nuit où Marie-Claire est réveillée en sursaut par la sensation d'une main lui secouant l'épaule droite. Ce n'étaient pas les enfants. Je me suis levée pour vérifier, et ils dormaient. Elle se demande finalement le lendemain si elle n'a pas rêvé, malgré la brusquerie du réveil. Et puis, quelques jours plus tard, toujours pendant son sommeil, elle croit entendre la voix de Guy l'appeler. Ça commence à faire beaucoup. Mais voilà, à cette période, nous sommes dans les premiers mois de son cheminement de deuil, Marie-Claire ignore tout de ces phénomènes. Aussi, dans le doute, sa part mentale privilégie-t-elle la thèse de l'imagination. Malgré tout, un trouble continue de l'habiter. Ces phénomènes sont trop nouveaux, à la fois étranges et concrets. Bien décidée à comprendre ce qui lui arrive, elle commence à lire certains ouvrages, se documente, découvre bientôt que d'autres personnes vivent des expériences similaires aux siennes, et ce point la rassure, l'incite à être plus attentive à ce qu'elle vit. « Je sais que dans la période de deuil, on cherche des signes, mais peut-être sont-ils vraiment là ?»«
Que voulez-vous dire ?»«
Que certaines sensations de présence que j'ai eues, c'était peut-être vraiment Guy qui essayait de me faire signe, et qu'étant trop dans le questionnement, je n'y croyais pas. Je cherche des réponses, des explications. En fait, je me cherche moi-même. Parfois, je crois me trouver, mais j'ai souvent l'impression de me perdre. Il est tellement difficile de partager ce que l'on ressent, de mettre en ordre toutes ces émotions.
Oui, mettre en ordre toutes ces émotions. Comment savoir si ces papillons sont des signes réels ou des coïncidences auxquelles nous seuls donnons un sens? Y a-t-il une réponse à cette question? La seule qui vaille n'est-elle pas celle que nous ressentons au plus profond de nous alors que nous vivons une telle expérience? Un signe, comme une synchronicité, n'a de valeur que dans l'impact subjectif qu'il opère sur la personne qui l'observe. Alors, vouloir lui donner une réalité objective n'est-il pas vain, par définition? Pourquoi ne pas accorder confiance au radar intérieur que nous possédons tous? Entre l'adhésion sans nuance qui nous fait voir des signes partout et une posture de doute permanent, n'y a-t-il pas une voie du milieu? Chapitre 9. La vie jusqu'à la dernière seconde. Une année s'écoule. Une année durant laquelle Marie-Claire lit beaucoup et prend aussi du recul sur sa vie. Elle élève désormais seule ses deux enfants et jette un regard nouveau sur son existence. Avoir accompagné son amour jusqu'à son dernier souffle ne laisse pas indemne. Les épreuves que l'on traverse ont-elles un sens? Cette interrogation désormais la taraude. À l'automne 2012, un an après la mort de Guy, Marie-Claire apprend que François Hollande, alors président de la République, lance une consultation sur la question de la fin de vie. Il crée pour cela la mission présidentielle de réflexion sur la fin de vie,
dont il confie la présidence au médecin Didier Sicard. Le mandat de cette mission est d'examiner s'il convient ou non d'ouvrir la voie à une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité, terme officiel employé pour désigner l'euthanasie. Le rapport Sicard doit être remis au président avant la fin de l'année. En France, il existe un dispositif législatif encadrant la fin de vie, la loi dite « loi Leonetti ». Malheureusement, son application encore trop lacunaire empêche une part importante des quelque 600 000 personnes mourant chaque année en France de bénéficier d'un cadre humain adapté aux contraintes spécifiques, tant physiologiques que psychologiques, de la fin de vie, les soins palliatifs. La détresse vient de là, de la non-application de la loi. Les raisons sont multiples. Outre le manque de moyens, bien sûr, la cause la plus importante est, sans conteste, le manque de formation du personnel soignant, ce que va mettre en lumière le rapport Sicard. Car la loi Leonetti permet en effet notamment une prise en charge de la douleur et des autres symptômes de fin de vie, la mise en œuvre de soins palliatifs à l'hôpital ou à domicile. Elle condamne, sans équivoque, l'acharnement thérapeutique et accorde le droit aux patients de refuser un traitement ou des examens complémentaires s'ils les estiment inutiles. Elle offre enfin la possibilité d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les malades en phase terminale, dans le cas de souffrances insupportables, tant physiques que psychologiques. Quand la personne mourante n'a pas accès à des soins palliatifs auxquels la loi lui donne pourtant droit, alors la douleur, la détresse, la non-prise en compte d'un certain nombre d'éléments spécifiques à la fin de vie conduisent à des situations aberrantes où les personnes s'éteignent dans des conditions indignes. Les soins palliatifs offrent le cadre d'une fin de vie dans la dignité. Le rapport Sicard préconise d'ailleurs en priorité un effort massif de formation sur les soins palliatifs auprès du monde médical. En d'autres termes, appliquons partout la loi Leonetti, cela constituera déjà un progrès considérable dans la capacité de notre société à offrir à chaque personne une fin de vie digne. Les demandes d'euthanasie sont formulées, dans l'immense majorité des cas, par des personnes ou des proches accompagnant des malades qui ne bénéficient pas d'un accès aux soins palliatifs. S'il est rendu possible, la demande d'euthanasie disparaît dans quasiment tous les cas. Marie-Claire, voulant contribuer à sa modeste mesure à ce débat qui agite alors la France, elle décide d'écrire au professeur Sicard pour lui faire part de son expérience dans l'accompagnement sur le long terme de son mari. Elle prend la plume durant le week-end de la mi-octobre. Il faut dire que la mort, elle commence à connaître. Avant le décès de Guy, Marie-Claire avait déjà perdu plusieurs proches. Elle avait 12 ans lorsque son père est décédé et 33 lors du départ de sa mère. En tapant les premiers mots sur le clavier de son ordinateur, Marie-Claire réalise combien ses morts l'ont fragilisée. Très jeune, la vie a cessé d'avoir du sens à ses yeux. À quoi rime cette existence si elle n'est que souffrance? Ces décès ont fait disparaître la saveur des jours, et Marie-Claire comprend n'avoir vécu que par amour pour ses proches. Aucune envie ne la porte. Elle n'est animée par aucune ambition. Elle est coupée de son énergie de vie, comme en mode survie. Elle n'existe qu'à travers et pour ceux qu'elle aime, pas pour elle-même. Ses pensées la submergent devant son écran. Elle voudrait parvenir à expliquer en détail ce qui s'est passé avec Guy, ne rien omettre, parce que ce qu'ils ont vécu ensemble a tout changé. C'est dur à dire. Guy, l'amour de ma vie, m'a amené à la vie en partant. Comment ça ? Ce lien qui a été le nôtre toutes ces années m'a redonné la vie. Je ne sais pas si je m'exprime bien.
Si, si, n'ayez crainte. Dites-moi ce que vous avez écrit au professeur Sicard.
Je voulais juste témoigner. Écrire représentait une thérapie pour moi. J'ai raconté les années de maladie de Guy, sa fin de vie, son coma, puis ce que j'ai ressenti lorsque nous avons eu cet échange de regards, quand il est sorti du coma quelques minutes, à 3 jours de sa mort.
Qu'a-t-il eu de spécial, cet échange de regards avec votre mari?
C'est un moment inestimable qui me reste encore. Si on avait écourté sa vie, je n'aurais jamais vécu ça. Alors que la force de ce moment me porte encore aujourd'hui.
Il était important que vous témoigniez de cela.
Oui.
Avec dans l'idée de décrire cet échange de regards?
Oui, parce que ce n'est pas juste une belle histoire. Mon mari a eu un moment d'éveil dans son coma, 3 jours avant sa mort, et son regard calme et empli d'amour me poursuit agréablement depuis. C'était un moment privilégié et important pour lui comme pour moi, j'en suis certaine. Ce vécu me conforte dans l'idée qu'il faut respecter le processus de la mort.
C'est ce que vous ressentez?
Oui. La vie se doit d'aller jusqu'à son terme. Même dans la difficulté, de belles choses en sortent.
La force avec laquelle Marie-Claire exprime son expérience m'émeut. Je repense, en l'écoutant, au récit qu'elle m'a fait de la fin de vie de Guy, de ses longs mois de maladie, de ses interminables journées à le veiller. Ces mots me touchent. Elle poursuit.
Je reviens de loin. J'ai l'impression que cette expérience m'a fait naître.
Naître?
Oui, naître. En quelque sorte, la mort de Guy m'a fait naître à la vie. Naître et enfin sentir le sens de mon existence. Ce qu'elle apporte. Comprendre que chacun de nous a peut-être une mission de vie. Guy est venu me faire chavirer. Durant sa maladie, l'amour n'a pas faibli. Au contraire même, notre amour a grandi. Pourtant, il n'y avait plus de rapport physique. C'était difficile. On ne dort pas, on est épuisé. La maladie progresse, elle ne laisse aucun répit. Et malgré tout, cet amour grandit. Il grandit. Alors, j'ai écrit dans ma lettre qu'il est important d'accompagner ceux qu'on aime jusqu'à la fin de la vie, être présent. On peut toujours vivre de belles choses, même si c'est infime par rapport au reste. Et ces belles choses nous aident à vivre après. Parce qu'un amour si fort ne peut pas s'arrêter comme ça.
Tard le dimanche soir, Marie-Claire a terminé sa longue lettre. Elle est fière d'être parvenue à raconter son histoire. Après une dernière lecture, elle se couche. Elle éprouve toujours des difficultés à trouver le sommeil, séquelle de ses 6 longues veilles auprès de son mari. Les heures s'écoulent, la nuit avance. Allongée sur le côté, elle est soudain surprise par quelque chose qu'elle sent se coller à elle, dans le dos. Mais elle est tournée vers l'extérieur du lit, et son dos est au bord. Il n'est physiquement pas possible que quelque chose soit dans son dos. Mais la sensation est tout de suite évidente, indiscutablement réelle.
« Guy, c'est toi ?»
demande-t-elle. Est-il vraiment en train de se passer ce qu'elle pense ?«
Guy, c'est toi ?»
Marie-Claire sent une pression plus forte, une masse collée contre elle, comme un corps. Est-ce une réponse? Désireuse d'être précise dans la description de ses expériences, Marie-Claire bataille pour mettre des mots sur ses ressentis. Mais sa conviction est très vite faite. C'est physique, c'est là, tellement réel, si évident.
Ça, on ne me l'enlèvera jamais, jamais. Je sais ce que j'ai senti.
Elle n'ose bouger, garde les yeux grands ouverts dans l'attente.
Je ne bougeais pas. J'attendais de voir ce qui se passait. Eh bien, moi qui ai tellement veillé mon mari, je me suis bêtement endormi. Je m'en veux. Mais je me suis endormi dans un tel sentiment de bonheur, d'apaisement, d'amour, de bien-être. Si je pouvais m'endormir tous les soirs comme ça. C'était une telle paix, un tel bonheur, un moment si exceptionnel.
Mais lorsqu'elle ouvre les yeux à nouveau, elle croit entendre respirer. La sensation de présence est toujours là, face à elle désormais. Alors, profondément émue, elle reste immobile. Elle ne veut pas risquer de perdre le contact. Comme si nous dormions l'un en face de l'autre, partageant la même nuit. L'expérience va durer jusqu'au matin. Des heures entières, Marie-Claire est transportée par un bonheur sans nom. Puis elle a finalement la sensation d'un froissement de drap, comme si quelqu'un sortait du lit. Et la présence n'est plus là. Malgré tout, elle demeure sans bouger. J'étais vraiment consciente, bouleversée. Et puis, le radio-réveil a retenti. Je ne pensais pas que l'on était déjà le matin. Il fallait se lever, et je n'avais pas envie de sortir de mon lit. Mais alors, absolument pas. Marie-Claire se résout à se lever, puis va vers la chambre de sa fille pour la réveiller. Elle découvre Nolwenn pétrifiée, manifestement